4, 7. Je rappelle que cette épître avait été écrite pour des juifs convertis au christianisme et qui passaient par des difficultés. Ils étaient tentés de retourner au judaïsme, ils étaient anxieux, se demandaient mais en qui se confier, dans le sacrificateur dans le ciel, Jésus-Christ, ou celui qui est encore dans le temple. Et la lettre leur montre qu'il était temps de quitter le judaïsme et d'embrasser totalement le christianisme, parce que l'ancienne alliance était temporaire, elle avait fait son temps, et qu'elle amenait, elle appelait la nouvelle. Et donc dans cette épître aux Hébreux, l'auteur montre à ces juifs éprouver la supériorité de la personne du Fils, la supériorité aussi de son sacerdoce, ce que nous avons déjà développé. Et au chapitre 7, la fois dernière, nous avons vu un personnage mystérieux, Melchizédek, et Jésus était rendu semblable à Melchizédek, un souverain sacrificateur d'un autre ordre qui n'était pas lévitique et que Dieu avait appelé dans le psaume 110 et dans Genèse aussi, quand Abraham a été sauvé, son neveu Lot, quand il avait été capturé par une coalition de rois. Et Melchizédek, sacrificateur du Très-Haut, avait béni Abraham et Abraham lui avait donné la dîme de tout. Et ainsi, la parole montrait que Melchizédek, et donc le sacerdoce de Christ, était bien plus grand que celui des Lévites. Ce matin, nous voulons voir, chapitre 7, versets 11 à 19, Jésus-Christ, le plus grand souverain sacrificateur. Et donc nous verrons ce matin les versets 11 à 19 du chapitre 7 d'Hébreux, que je vais lire jusqu'au verset 19. Nous avons déjà vu les versets 1 à 10 et ce matin nous verrons les versets 11 à 19. Donc je reprends la lecture au chapitre 1. « En effet, ce Melchizédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il le bénit et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. » Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchizédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchizédek alla au-devant d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Voilà ce mot fort, cette expression forte du verset 19, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. L'expression « nous nous approchons de Dieu » est riche de signification et guide tout ce passage comme toute l'épître aux Hébreux. La volonté de Dieu, c'est que l'on vienne à lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dieu veut que tout homme soit sauvé, et c'est en venant à lui qu'on est sauvé. Mais ça ne s'arrête pas un jour, le jour de notre salut. C'est tous les jours que Dieu veut que l'on s'approche de lui. Et Dieu veut que les croyants continuent de s'approcher de lui. Ne voient pas seulement Jésus à la croix, j'ai le salut, et puis je vis une vie indépendamment de Dieu, mais au contraire, il veut continuer la communion avec nous, comme c'était dans le cas dans le jardin d'Éden, où les hommes, Adam et Ève, communiaient avec le Seigneur tout le temps. Le péché a mis une barrière entre les hommes et Dieu. Et ils ont été séparés de leur Créateur, mais Dieu, en Jésus-Christ, nous a réconciliés avec lui, comme nous avons lu ce matin, comme nous avons chanté, et Dieu veut continuellement les croyants s'approchent de lui. C'est là l'essence du christianisme. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Malheureusement, des fois, nous oublions cela. Nous avons un sauveur un jour, et puis nous partons dans plein de choses, d'activités, et nous oublions qui nous donne la vie, qui nous a donné la vie, qui est notre Père, qui nous soutient, qui prie pour nous. Nous sommes avec nos semblables, nous sommes avec les choses de ce monde, et nous oublions Dieu. Voilà. Alors que Dieu, au contraire, veut tout le temps que nous nous approchions de lui pour nous transformer, pour nous rendre semblables à lui, pour nous informer, pour nous soutenir, pour nous éclairer et nous détacher un peu des choses de cette terre, nous attacher à lui. Et aussi qu'on se voit tel qu'on est, comme Ésaïe s'est vu, comme plein d'hommes se sont vus, des pécheurs perdus, des serviteurs inutiles, sans toi nous ne pouvons rien faire, et cultiver ainsi l'humilité, s'approcher de Dieu est la clé de la vie chrétienne. Eh bien, sous l'ancienne alliance, ce n'était pas possible d'avoir un accès complet à Dieu. Il y avait ce voile qui empêchait l'accès à Dieu. Oui, le souverain sacrificateur pouvait entrer une fois l'an, offrir des péchés, mais c'était une fois. Et les péchés n'étaient pas enlevés complètement, il n'y avait pas de paix permanente sous l'ancienne alliance. Mais en Jésus-Christ, cela est possible. Et c'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. Nous voulons voir tout d'abord l'insuffisance du sacerdoce lévitique sous l'ancienne alliance et ensuite l'excellence de la nouvelle alliance, l'excellence du sacerdoce de Christ. Donc commençons par l'insuffisance du sacerdoce lévitique des versets 11 à 14, l'insuffisance de l'ancienne alliance. Et nous lisons au verset 11, « Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron ? C'est une question qui appelle une réponse. Était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron ? Et on a vu qu'au dans la Genèse et au psaume 110 que Dieu avait déjà prévu que le sacerdoce lévitique n'allait pas être permanent. Dieu n'avait jamais voulu que ce sacerdoce dure éternellement. L'Ancien Testament parlait déjà d'un autre sacerdoce différent de celui d'Aaron, descendant de Lévi. C'est au psaume 110, verset 4, « L'Éternel a juré et ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. » Voilà, il parlait du Messie, nous l'avons vu la dernière fois, qui allait être roi et sacrificateur pour toujours. S'il allait être pour toujours, ce n'était pas pour un moment. Selon, à la manière de Melchisédek, le psaume annonçait un autre sacerdoce qui serait mis en place pour toujours, et le Messie serait le sacrificateur. Si le sacerdoce lévitique était parfait, pourquoi vouloir le changer ? Pourquoi le remplacer par un autre ? Et si Dieu voulait améliorer le sacerdoce lévitique, pourquoi annoncer que le Messie serait un sacrificateur selon Melchisédek et non selon Aaron. Pourquoi Dieu avait-il inspiré David pour annoncer que le Messie serait roi divin et sacrificateur éternel alors qu'il n'était pas lévite? Pourquoi remplacer un système s'il fonctionne? Eh bien, Dieu n'avait pas prévu que le système lévitique dure à jamais. Et ce n'est pas par hasard que Dieu a rejeté le sacerdoce lévitique. C'était déjà prévu depuis le commencement. Notez bien que depuis Abraham, déjà dès le départ, lorsque Dieu a appelé Abraham, quelque temps après, on voit qu'il attire Abraham vers Melchisédek, sacrificateur de notre ordre, sacrificateur de notre supérieur Aaron, descendant d'Abraham. Voilà, Dieu avait prévu cela déjà depuis le commencement. Donc, la perfection n'était pas possible par le sacerdoce lévitique. Et c'est ce que nous voulons voir maintenant. Il nous faut nous pencher sur le mot perfection. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour mieux saisir l'insuffisance du sacerdoce lévitique et nous réjouir aussi, rendre grâce à Dieu pour l'excellence du nouveau sacerdoce, l'excellence du sacerdoce de Christ. Alors, dans la Bible, le mot perfection veut dire le plus souvent maturité, accomplissement. Ça a l'idée que le but visé a été atteint. Et Paul parle souvent de la maturité dans la foi, la maturité chrétienne, la perfection. Mais dans l'Épître aux Hébreux, ça n'a pas le même sens. Dans l'Épître aux Hébreux, la perfection signifie essentiellement l'accès à Dieu, le salut par la foi et non la maturité du croyant. On peut prendre Hébreux chapitre 10, tournez juste aux pages, gardez un doigt dans le chapitre 7. Hébreux chapitre 10, verset 14. On peut lire Hébreux chapitre 10, verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Par une seule offrande, c'est l'offrande du corps de Christ. Le Seigneur s'est offert, eh bien, il a amené à la perfection pour toujours. C'est quelque chose d'achevé, complet. Ceux qui sont sanctifiés. Une personne est amenée à la perfection lorsqu'elle a placé sa foi dans le sacrifice de Christ. Elle est sauvée. Elle a un plein accès à Dieu. C'est ça la perfection dans Hébreux. Un plein accès à Dieu. Le sacerdoce lévitique est incapable d'offrir un plein accès à Dieu. Et ce plein accès à Dieu ne peut venir que de Jésus-Christ. Dans l'évangile, selon Jean, nous connaissons ces paroles du Seigneur quand il s'adresse aux Juifs. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir à Dieu que par moi. » Le plein accès à Dieu n'est possible qu'en Jésus-Christ. Le sacerdoce lévitique avait pour but de réconcilier les hommes avec Dieu par le moyen des sacrifices. Dieu ne pouvait pas laisser les hommes avec leurs péchés comme ça. Il fallait qu'ils puissent communier dans une certaine mesure avec leur Dieu. Et il y avait ces sacrifices qui étaient offerts, mais continuellement. Et ce sacerdoce lévitique ne pouvait pas donner un plein accès à Dieu. Il y avait ce voile encore. Il y avait les sacrifices qu'on répétait tout le temps. Le sacerdoce lévitique ne pouvait donner qu'une image de la véritable réconciliation. Les sacrifices de l'ancienne alliance ne faisaient que couvrir le péché, mais ils n'enlevaient pas le péché. Ils apportaient le pardon dans une certaine mesure, mais pas le pardon complet, comme nous l'avons en Jésus-Christ. Pas un entier pardon, et par conséquence, le pardon permanent, et donc l'accès permanent auprès de Dieu, ne peut provenir que de Jésus-Christ, pas de l'ancienne alliance. On lit encore dans Hébreux chapitre 10, verset 1 à 2, que vous pouvez prendre avec moi si vous le voulez bien. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leur péché. Si donc, frères et sœurs, la perfection avait été possible par l'ancienne alliance, les sacrifices seraient terminés. mais les répéter tout le temps, ça veut dire que ce n'était pas complet. C'était que partiel. Il fallait les répéter. Et c'est ce que nous dit Hébreux chapitre 10, versets 1 et 2, et bien d'autres endroits dans l'Épître aux Hébreux. Par contre, la nouvelle alliance en Jésus-Christ nous donne un parfait accès, un plein accès à Dieu une fois pour toutes. Parce que la bonne offrande a été faite une fois pour toutes. Jésus s'est offert une fois pour toutes, il n'y a pas à recommencer. Et donc Dieu veut que nous nous approchions continuellement de lui et pas seulement un jour. La nouvelle alliance en Jésus-Christ permet de mieux comprendre le pardon total. Jérémie a prophétisé sur cette nouvelle alliance et il souligne combien elle est supérieure à l'ancienne. Prenez avec moi Jérémie, chapitre 31. Gardez toujours un doigt dans Hébreux, chapitre 7. Jérémie, chapitre 31. À partir du verset 31. Voici, Jérémie 31, verset 31, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. » Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain ni celui-là son frère en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Cette même pensée est reprise, ces mêmes versets sont repris dans Hébreux chapitre 10, versets 16 à 17. Et Hébreux chapitre 10, dans sa majeure partie, souligne que là où se trouve le véritable pardon, les sacrifices ne sont plus nécessaires. Une fois le sacrifice final offert, celui de Jésus-Christ, nous avons été libérés de notre péché et par là même de notre culpabilité. On peut remercier le Seigneur pour la nouvelle alliance. Eh bien, sous l'ancienne alliance, personne n'avait un accès complet auprès de Dieu. Le péché était temporairement couvert, mais n'était pas enlevé. Et la culpabilité qui accompagne le péché demeurait donc. Hébreux chapitre 11. Et donc un puissant encouragement aussi bien pour les Juifs éprouvés, qui sont croyants, qui ont la foi dans le Seigneur, une foi solide, comme aussi pour ceux qui sont hésitants, qui se disent, mais est-ce qu'il faut que je retourne à l'ancienne alliance? Est-ce qu'il faut que je retourne voir le sacrificateur dans le temple? Ou est-ce qu'il faut que je mette une pleine confiance en Jésus-Christ? Si la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, nous dit ce verset 11, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Par ces paroles, et remarquez, c'est la parole de Dieu. L'auteur de l'Épître ne va pas chercher dans la philosophie, dans ses idées, de quoi encourager les croyants découragés. C'est la parole de Dieu qui rappelle finalement le Seigneur Jésus-Christ, qui nous remet le Seigneur Jésus-Christ comme étant souverain, omniscient, omnipotent, des choses qui étaient là, qu'ils connaissaient déjà, qui étaient déjà écrites, mais qu'ils avaient oubliées. Et donc, les Juifs croyants sont encouragés par ce verset. Ils sont encouragés dans leur foi au Seigneur Jésus. Ils savent qu'ils sont parfaitement en sécurité. Ils savent qu'ils sont parfaitement sauvés. Ils n'ont plus à regretter leur abandon du judaïsme, avec ses rites, ses sacrifices, ses symboles, même si c'était merveilleux avant, même si ça a été efficace avant, même si c'était important dans le passé, mais c'était temporaire, ça devait passer, ça ne pouvait pas rester éternellement, puisque ça n'apportait pas un accès parfait à Dieu. Ils n'ont plus besoin d'une image du salut, ces sacrifices, ces rites et tout cela, parce qu'en Jésus-Christ, ils ont la réalité du salut. Ils ont le Sauveur là. Et c'est ce verset aussi encourage les Juifs qui sont hésitants, qui disent, mais est-ce qu'il faut vraiment placer sa confiance en Jésus-Christ? Je passe par des moments difficiles. Peut-être qu'il faut retourner à tous ces sacrifices, mettre ma confiance dans le souverain sacrificateur. Le temple était encore là. Eh bien, ceux qui sont hésitants, indécis, ceux qui hésitent à quitter l'ancienne alliance, eh bien, ceux-là sont encouragés à ne plus s'y accrocher, parce que ça ne va rien leur apporter. Aucune assurance, aucune libération de leur péché, aucune conscience en paix, aucune paix et aucun accès à Dieu. Ce que l'ancienne alliance ne pouvait accomplir, Jésus-Christ l'a accompli. Le sacerdoce lévitique avait sa place dans le plan de Dieu, mais il était temporaire, il était passager, il était inférieur et insuffisant. Il n'était qu'une image de la perfection. Poursuivons, frères et sœurs, au verset 12 du chapitre 7 d'Hébreux. Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Le terme « changer » ici signifie « remplacer une chose par une autre chose ». Ce n'est pas une histoire d'amélioration. Le sacerdoce d'Aaron n'a pas été amélioré. Dieu n'a pas apporté quelque chose, n'y a pas ajouté des choses pour l'améliorer. Il a été remplacé. Le sacerdoce a été changé. L'ancienne alliance a été changée. Le sacerdoce d'Aaron a été changé, remplacé par le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Le sacerdoce selon Aaron n'a pas été amélioré, il est complètement révolu. Et il nous est dit que, car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Le sacerdoce et d'Aaron et la loi étaient intimement liés. Et puisque le sacerdoce est changé, la loi aussi, en quelque sorte, devait être changée. Cela impliquait que la loi allait changer. Donc la loi, ça représente l'Ancien Testament, des fois les 10 commandements. Mais l'auteur ici, quand il parle de changement de loi, il parle de la loi cérémonielle, c'est-à-dire tous ces sacrifices, ces fêtes, ces rituels, qui sont l'ombre des choses à venir, qui ne sont pas la réalité. La réalité est là, pourquoi rester dans l'ombre, n'est-ce pas? Si le Seigneur est là, si le salut est là, le complet accès à Dieu est là, celui qui est limité n'a plus de raison d'être. Donc c'est cette loi cérémonielle qui n'est plus là, qui a été changée. Mais la loi morale de Dieu, qui est exprimée dans les 10 commandements, mais aussi dans l'Ancien Testament dans sa totalité, fait partie de la nature de Dieu. Et vous savez que la loi morale, elle est reprise dans le Nouveau Testament. Celle-là n'est pas changée. Quand l'Ancien Testament condamne l'adultère, le vol, la convoitise, le Nouveau Testament le condamne aussi. Ça n'a pas changé, ça fait partie de la nature de Dieu. Par contre, la loi cérémonielle, les rites, les sacrifices n'ont plus de raison d'être, puisque Jésus s'est offert une fois pour toutes que nous ayons un plein accès à Dieu. Remarquez, quand vous regardez l'histoire d'Israël, au Sinaï, le peuple était tenu, éloigné de la montagne. Il était tenu au pied de la montagne, il ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Dans le tabernacle, dans le temple, il y avait ce voile aussi qui séparait le peuple de la présence de Dieu. Il ne pouvait pas entrer dans le lieu très saint, là où Dieu était. Alors, sous l'ancienne alliance, on ne pouvait pas s'approcher de Dieu et on n'était même pas encouragé à le faire. On était interdit d'essayer. Sans une entière purification, sans un pardon complet des péchés, les hommes ne peuvent pas avoir accès à Dieu. Mais le sacrifice de Jésus-Christ à la croix nous permet d'avoir cet accès à Dieu. Le voile du temple a été déchiré. Donc l'accès à Dieu a été désormais possible à tous ceux qui ont placé leur foi dans ce sacrifice, le sacrifice de Jésus-Christ pour le salut de leur âme. Ainsi, le système judaïque a été changé, remplacé par un nouveau système, un nouvel ordre, un nouveau sacrifice, une alliance nouvelle, entière et bien meilleure. Et nous poursuivons versets 13 et 14 qui nous montrent toujours l'insuffisance de l'ancienne alliance. Et on lit au verset 13 et 14 « En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu. dont aucun membre n'a fait le service sur l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur Jésus est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ceux qui concernent le sacerdoce. Remarquez cette petite parole, en effet, celui de qui ces choses sont dites. Il parle de l'Ancien Testament, il parle du psaume 110, il parle des Écritures. Les Écritures parlent de Christ. Frères et sœurs, quand nous lisons la parole de Dieu, n'allons pas chercher à augmenter nos connaissances, ni à valider notre sagesse, ni à valider une tradition. Cherchons le Seigneur, il est là. Il nous cherche, il veut cet accès auprès de lui, toujours renouvelé, et c'est dans la parole. Et la parole amène la prière aussi, parce qu'on le voit tel qu'il est, et on se voit tel que nous sommes. On a envie de lui ressembler, on a envie qu'il nous remplisse, comme dit l'apôtre Paul aux Éphésiens, que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, et que nous comprenions avec tous les saints quelle est la largeur, la profondeur, la hauteur et la profondeur, et que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Que Christ habite dans nos cœurs par la foi, voilà, toujours plus, et pas seulement le jour du salut. Et donc, les Écritures parlent de Christ, cherchons-le, cherchons la lecture des Écritures n'est pas une fin en soi, nous n'apprenons pas seulement les Écritures pour les mémoriser et pouvoir les ressortir, nous les apprenons pour connaître notre Seigneur, pour le découvrir davantage, parce qu'il est immense, il y a plein de choses, et une vie ne suffira pas. Donc, Dieu a voulu se révéler par la parole, fidèle, les promesses sont là, et les psaumes louent cette parole qui nous est laissée. La nature parle de Dieu, c'est vrai, mais la parole de Dieu parle encore plus précisément de Dieu. Nous l'avons, occidentaux, nous l'avons. N'allons pas chercher ailleurs la connaissance, elle est là. Lisons-la, méditons-la, relisons-la. Une vie n'est pas suffisante. Et si vous êtes jeune, je vous encourage à commencer. Pas un petit verset seulement. Une bonne ration. Tous les jours. Voilà, autant que possible. Alors, nous savons, parce que Dieu l'avait ordonné à Moïse, que l'unique tribu qui allait remplir le sacerdoce était celle de Lévi et pas les autres. Lévi était désigné parce qu'il y avait toute une histoire, une fidélité dans le désert. Donc Dieu avait désigné Lévi. Voilà, c'est vous qui serez les prêtres. Voilà. Mais il nous dit que Jésus n'est pas descendant de Lévi. Il nous a dit que Jésus est descendant de Juda. Et la tribu de Juda, Moïse n'a rien dit pour eux. Il n'avait pas à remplir le rôle de prêtre. Il n'avait aucun rôle à jouer dans le sacerdoce. Si donc Jésus est souverain sacrificateur, cela implique que son ordre est distinct de celui d'Aaron, puisque Moïse n'avait rien dit. Jésus pouvait être souverain sacrificateur parce que la parole de Dieu l'a dit. Le psaume 110 sous-entendait le caractère temporaire du sacerdoce lévitique et annonçait l'arrivée d'un nouveau sacrificateur, d'un autre ordre, de souche royale, parfaite, éternelle. « Car tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. » Nous l'avons vu déjà la dernière fois, je ne reprends pas ce psaume 110. Nous voici arrivés au terme de cette première partie qui montre l'insuffisance du sacerdoce lévitique et combien il a besoin d'être remplacé par le sacerdoce de Melchizedek, le sacerdoce de Christ. Et nous allons voir maintenant, du chapitre 15 à 19, l'excellence du sacerdoce de Christ, l'excellence du sacerdoce de Jésus. Et nous lisons, cela devient, Hébreux chapitre 7, verset 15, cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Il y a ainsi abolition, une ordonnance intérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous approchons de Dieu. Alors, vous voyez qu'il est parlé de, au verset 17, Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur. Ce terme est important. Il était déjà employé au verset 11. Regardez avec moi. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur? Remarquez au verset 13, une autre tribu, ce mot « autre », ça veut dire que les choses ont changé. Eh bien, « autre », le terme utilise deux mots pour traduire « autre ». Le premier terme est « allos », qui signifie « un autre », mais du même genre, de la même sorte. Voilà un stylo bleu, un stylo rouge, quelque chose de la même sorte. Mais le deuxième terme, c'est « hétéros », qui signifie « un autre », mais « un autre d'une nature différente ». Et c'est ce terme hétéros qui est employé là quand on parle d'un autre sacrificateur. Nous n'avons pas en Christ un sacrificateur semblable à Aaron, un sacrificateur semblable à ceux qui étaient sous l'ancienne alliance, dans le tabernacle ou dans le temple. Nous avons en Christ un autre sacrificateur hétéros, entièrement différent de ceux de l'ancienne alliance. Sous l'ancienne alliance, les sacrificateurs étaient tous semblables. C'étaient des hommes mortels, ils étaient allos. Tout semblable sous la nouvelle alliance, il n'y a qu'un seul souverain sacrificateur qui est Eros, et c'est Jésus-Christ. Il est différent des autres. Les versets 11 et 15 font tous deux mention de l'apparition d'un autre sacrificateur. Était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Cela devient plus évident quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Et quand on étudie un peu la langue grecque, on se rend compte qu'au verset 15, on pourrait traduire aussi le verset 15 comme ça, « un autre sacrificateur paraît de lui-même ». Un autre sacrificateur paraît de lui-même, en parlant du verset 15. Et ça peut apporter une certaine richesse à ce verset. Tout d'abord, aucun sacrificateur de l'Ancienne Alliance n'est apparu de lui-même. Il devait être descendant de Lévi. Il fallait qu'on retrouve sa généalogie. Quand il y a eu le retour après l'exil, eh bien, certains sacrificateurs n'ont pas pu exercer le sacerdoce parce qu'ils n'ont pas retrouvé leur généalogie. Ils ne pouvaient pas prouver qu'ils étaient descendants de Lévi. Parce que ces sacrificateurs étaient issus d'un père et d'une mère. Mais il nous est dit, là, que Jésus est un sacrificateur qui paraît de lui-même. Comme Melchisédek, il n'a ni père ni mère, ni fin de jour, ni début de vie. Jésus est paru de lui-même, et en tant que Dieu, effectivement, il est paru que lui-même. Il s'est incarné. Il n'est pas venu d'un père physique. Il a été issu du Saint-Esprit. Il est paru de lui-même. Voilà. Qui montre la qualité. Ça nous montre qu'il apparaît vraiment, qu'il appartient à notre ordre. Ensuite, les sacrificateurs de l'Ancienne Alliance devaient prouver qu'ils étaient bien d'Aaron. Jésus, lui, pouvait exercer le sacerdoce en raison de sa propre identité. Il paraît de lui-même. C'est un petit détail. Alors, nous continuons dans Hébreux chapitre 7, et nous prenons le verset 16 maintenant. Alors, le verset 15, nous lisons, « Cela devient plus évident encore. » Quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, et verset 16 nous dit, institué, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable, car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Institué, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle. Comment étaient choisis les sacrificateurs sous l'ancienne alliance? Ah ben, c'était essentiellement sur des critères physiques. La loi faisait d'un homme un sacrificateur en raison de la famille dont il était issu. Et bien sûr, en raison de certaines conditions physiques qu'il devait remplir. Mais le service de ces sacrificateurs n'avait rien à voir avec leur caractère, leur qualité, leur personnalité, leur sainteté. Bien sûr, Dieu a puni certains qui se sont égarés. Il fallait quand même qu'ils ne mettent pas une vie de débauche. Mais ils étaient choisis seulement parce qu'ils faisaient partie de la famille de Lévi, sans plus. Et ils étaient souverains sacrificateurs parce qu'ils étaient descendants d'Aaron, sans plus. C'était une histoire physique, une histoire de famille. Mais à l'opposé, le sacerdoce de Christ, tout comme celui de Melchisédek, était uniquement fondé sur l'identité. Le sacerdoce n'avait rien à voir avec des histoires de descendance physique, avec le corps physique, mais il concernait avant tout, comme il est dit, la puissance éternelle. instituée non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Une vie impérissable, une vie qui résiste à toute tentative de lui nuire. Et vous voyez là comment Jésus-Christ, l'excellence du sacrifice de Christ, Jésus peut accomplir ce qu'Aaron ne pouvait pas accomplir. Parce que Aaron était descendant, enfin le souverain sacrificateur était descendant d'Aaron seulement selon des éléments physiques, non pas selon la puissance d'une vie impérissable. Jésus, lui, nous conduit dans la présence de Dieu et nous y garde éternellement. Et c'est Hébreux chapitre 6 qui nous dit ça. On peut reprendre tout à côté, Hébreux chapitre 6, versets 19 à 20. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur et a été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Je ne sais plus quel homme de Dieu, est-ce que c'était Spurgeon ou Luther qui était, se posait des questions par rapport à son salut. Et puis il s'est dit, mais finalement, mon salut n'est pas sur terre. Il est au ciel. Mon sacrificateur est là-haut, il prie pour moi. Je n'ai pas à avoir peur de la mort. Je suis sauvé en Jésus-Christ et Jésus-Christ est déjà au ciel. Il m'a préparé une place. Donc je peux marcher, voilà, dans la joie, dans la paix. J'ai un plein accès à Dieu dès maintenant et pour l'éternité. Et ça personne ne va me l'enlever. Parce qu'il est l'accès qui ira prendre le salut au ciel. Personne. Ils peuvent monter à la station spatiale, mais ils n'iront pas jusqu'au ciel. Voilà. Donc la permanence du ministère de Jésus-Christ ne repose pas sur une filiation, c'est-à-dire sur une descendance, ni sur la loi, mais sur la résurrection. Jésus-Christ est ressuscité, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Voilà. Aucun autre sacrificateur ne pouvait faire cela. Aucun autre sacrificateur ne possédait cet atout. La permanence aussi du sacrifice de Christ repose sur l'engagement de Dieu lui-même. Quand il dit au psaume 110, quand Dieu dit « Tu es sacrificateur pour toujours, je ne m'en repentirai pas », Dieu s'engage. Dieu s'engage, mes amis. Dieu s'engage. Et donc, ces versets montrent la permanence du sacrifice et l'excellence du sacrifice de Christ. Parce que c'est selon la puissance d'une vie impérissable et ce témoignage de Dieu, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Et quand Dieu parle, ça s'accomplit. Nous arrivons enfin au moment culminant de notre méditation quand il est dit, au verset 18 et 19, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Est-ce que nous aimons nous approcher de Dieu? Est-ce que nous y trouvons de la joie? Est-ce que ça a de la valeur pour nous? Ou est-ce que c'est la vie sur cette terre avec nos performances et la technologie, l'IA, voilà? Est-ce que ça nous parle plus que nous approcher de Dieu? Le Dieu saint, le Dieu omnipotent, le Dieu souverain, le Dieu qui conduit l'histoire, le Dieu qui arrête les méchants et le Dieu qui aura le dernier mot. Et il nous est dit, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous approchons de Dieu. Ce n'est pas une petite affaire d'être chrétien. Ce n'est pas un salut qu'on a un jour, ce n'est pas un ticket pour le ciel. C'est plus que ça. C'est d'avoir une communion avec notre Dieu. Et tous les jours, pouvoir nous approcher. Genre, il le veut, mais est-ce que nous le voulons? C'est important. Aaron a été remplacé par Christ. Le terme abolition signifie qu'on élimine une chose qui était déjà là. On annule par exemple un traité. On annule une promesse, une loi. Aboli. Tous les objets associés à l'ancien culte, tous ces sacrifices, ça a été aboli, éliminé. Et Dieu s'est assuré qu'ils soient abolis quand le temple a été détruit en 70. Donc, les juifs croyants pouvaient avoir l'assurance que c'est fini, c'est passé ça. L'ancien système est passé, le temple n'existe plus, les sacrificateurs ne sont plus là. Voilà, nous passons à autre chose, nous passons à quelque chose de meilleur. Une ordonnance antérieure était incapable d'enlever le péché. Cette ordonnance antérieure, comme dit là le verset, devait être éliminée. Parce que cette ordonnance antérieure ne procurait aucune sécurité, aucune paix. Mais en Jésus-Christ, nous pouvons maintenant entrer dans la présence de Dieu. Et Christ étant fils de Dieu, voit et sacrificateur parfait. Il est le seul capable de nous réconcilier avec Dieu d'une façon permanente, de nous donner l'accès auprès de Dieu d'une façon complète. Ainsi donc, frères, nous dit Hébreux chapitre 10, versets 19 et 22, nous avons, au moyen de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Et la même pensée est reprise déjà au psaume 73, verset 28, je vous la lis parce que le temps est passé. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Ce n'est pas mes œuvres, mais ce sont ses œuvres. Et ça, c'est possible. Quand on s'approche de Dieu, on voit que c'est lui le héros, finalement, de toutes choses, de la parole et de ma vie. Voilà, frères et sœurs, que le Seigneur bénisse sa parole dans vos cœurs et que nous ayons envie de nous approcher de Dieu plus souvent que nous le faisons.